Bon, bonjour à tous. Alors, on a 2 heures à partir de maintenant. Donc, pour ma présentation, ma femme et moi, nous avons vécu pendant 10 ans dans 4 pays du Sud, Amérique centrale, Nicaragua, Algérie, Cameroun et Sénégal. Et après, à 33 ans, je suis rentré en France pour devenir agriculteur, ce que j'ai fait pendant 30 ans. Et mon statut officiel, c'est agriculteur. Je suis retraité de notre ferme qui produisait des grandes cultures et des semences depuis maintenant 4 ans. Mais parallèlement, j'ai continué à travailler dans des pays du Sud et je dois avoir fait 110 missions dans une trentaine de pays depuis 1981. Et là, j'en fais beaucoup pour des ONG, bénévoles depuis très très longtemps, en partie, mais là, ces dernières années, complètement bénévoles pour Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Alors j'ai plusieurs engagements, donc ces ONG, mais également membre du syndicat La Confédération Paysanne et l'organisme international qui les recoupe, qui est Via Campesina. Donc j'ai préparé un diaporama, sachant que Dominique me demandait d'intervenir sur un sujet qui, vous allez voir, est complexe. C'est très vaste, présenter un panorama d'agriculture française. On ne peut pas présenter l'agriculture française sans parler de l'agriculture européenne, parce que c'est la même politique agricole. Et puis également, j'ai préparé une partie qui va concerner les échanges internationaux et les incidences de ce que nous exportons sur certaines agricultures du Sud. Alors les sources, l'INSEE, AGRESTE, ce sont surtout des sources agricoles qui viennent du ministère de l'Agriculture. France Agrimaire, ce sont les instituts techniques français. FARM, c'est une ONG, une fondation qui travaille sur l'agriculture à la fois en France et dans le monde. Et puis également, comme je suis enseignant en vacataire à l'ESA d'Angers, mais là cette fois en agroécologie et surtout en agriculture comparée, j'ai des amis qui ont travaillé sur le sujet de présentation d'agriculture française. C'est donc Mohamed Ghali et Roger Le Douen. Également Jacques Berthelot, qui est un alter mondialiste avec lequel je travaille assez fréquemment, qui m'a donné également quelques diaporamas. Voilà, j'ai une matière qui est très vaste et je vais essayer de me tenir au temps imparti. L'idée, c'est de présenter une introduction générale sur ce qu'est l'agriculture et un focus sur les agriculteurs français et leurs fermes. Et après, 16 diapos environ, un focus sur les industries agroalimentaires. C'est difficile de parler de l'agriculture sans parler de ce qui est en aval. Et là, moi je propose donc 35 minutes. Donc Dominique, tu me rappelles, il est moins 20, à peine moins 20. Oh, je dirais que à un quart, tu me préviens. Hein. Et là, on ferait un débat important sur ces deux points. Puis après, un troisième point, qui est la place de l'agriculture française au sein de l'Union européenne, des agricultures de l'Union européenne. On est très, très imbriqués. Hein, donc, et un point 4, c'est un focus sur les importations et les exportations agroalimentaires françaises et leurs incidences sur les paysans de certains pays très déficitaires. Là, c'est un deuxième temps, une vingtaine de diapos. Alors, je prévoyais 25 minutes de débat, il n'y a qu'autant de temps de débat que de présentation. Les agrocarburants, j'ai mis ça si on avait du temps, parce que ça occupe maintenant une part importante des superficies en France et en Europe, notamment au colza. C'est la moitié des superficies de colza françaises. Vous savez, c'est cette plante avec ses belles fleurs jaunes, ça commence à fleurir d'ailleurs. Eh bien, la moitié part pour faire du carburant. Alors d'abord, une distinction entre ce qu'on appelle économie agricole et économie agroalimentaire. Avec la remarque, c'est qu'un paysan qui transforme et qui commercialise sa production se retrouve aux deux niveaux. Donc cette distinction économie agricole, la phase de production agricole, avec les services d'amont qui vendent des engrais, etc., les semences, et puis les services d'appui technique, pour cette phase de production, tout ce qui est en rouge, on appelle ça économie agricole. Après, plus globalement, il y a la phase transformation, les industries agroalimentaires, la commercialisation, donc l'économie agroalimentaire. Moi, je vais faire un panorama rapide sur cela. Alors, quelques chiffres. Si on ajoute tout ce qui est là, l'économie agroalimentaire, agriculture, plus IA, plus IA, industrie agroalimentaire, plus agrofourniture, salariés et non salariés, c'est quand même 2,4 millions d'actifs. C'est 9% de la population active française. Les producteurs ne représentant que entre 2 et 2,5. Donc il y a plus de monde autour des paysans que dans la phase de production elle-même. Aussi, un chiffre qui est important de retenir en d'entrée de jeu, c'est une part importante des exportations françaises. C'est historique, c'est quand même part importante de notre économie. Bon, c'est 12-13% de la valeur totale de nos exportations, dont une part importante pour le vin. Le vin et les spiritueux, c'est plus que les céréales. On verra un graphique là-dessus. Ah. Oh, il y a encore de la place, non? Mais c'est un peu coincé. Parce que il ne faut pas hésiter à être devant, il y a certaines diapos qui sont un peu petites. Donc 50 milliards d'euros d'exportation, c'est beaucoup. C'est le deuxième poste excédentaire de la balance française d'exportation. J'ai une petite diapo qui présente ça aussi. Et alors, les paysans n'ont pas seulement que des fonctions de production. C'est pour ça que quand tu m'appelles souvent producteur, Dominique, on n'est pas que producteur. On aménage les paysages. Ou on les dégrade. C'est au choix. Il y a le positif, il y a le négatif. Et puis, sur les fermes françaises, il y a beaucoup d'accueil de tourisme. Donc il y a des fonctions au niveau touristique et aménagement des paysages qui ne révèlent pas, on ne trouve pas dans le, classiquement dans les chiffres de l'économie agricole. Et pourtant, elles existent. Et puis, il y a, dans certaines régions, beaucoup d'externalités négatives induites par la production agricole. Et notamment, tout ce qui est pollution de l'eau, pollution de l'air. C'est un surcoût, par exemple, pour les ménages de certaines régions de France, qui doivent payer l'eau très cher, parce que, vu le niveau de pollution des eaux, eh bien, il a fallu traiter cette eau. Et même parfois boire de l'eau en bouteille, qui n'est pas toujours écologiquement positive. Et puis il y a aussi, dans certaines régions, une dégradation des sols. Donc, et ça, ça a des coûts qu'on appelle des externalités, que l'on n'impute pas à la production agricole, et je trouve souvent que c'est bien dommage. Alors là, c'est un tableau, je vais aller simple. Hein. C'est pour montrer l'évolution, hein, depuis 32 ans, de la part de l'agriculture, de la valeur ajoutée de l'agriculture dans la valeur ajoutée brute globale de notre pays. En 80, c'était 4%. Maintenant, ça ne représente plus qu'1,6%. Ça veut dire que le reste de l'économie s'est amplifié parce que, en valeur, ça a augmenté. Ça a presque doublé. Sur les industries agroalimentaires, en valeur, ça a presque triplé. Mais proportionnellement au reste de la valeur ajoutée brute française, ça a diminué. Alors il y a une inflexion là, en 2000. Vous voyez, en 2000, 2,5 plus 1,8, ça faisait 4,2 pour l'agriculture et pour les IA. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000 qui explique que ces montants aient diminué? Parce qu'en 2010, ça ne représente plus 1,6 plus 1,5, 3,1%. Que quelqu'un a suivi ce qui s'est passé en 2000. Changement de la politique agricole, c'est-à-dire que, au lieu de nous rémunérer par les prix, une grande partie des producteurs agricoles français ont été rémunérés par les aides que versent les contribuables français et européens. Et donc, moi, j'ai touché entre 20 et 25 000 euros d'aide chaque année. Et nous étions, mon collègue de GAEC et moi, on représentait 1,2 actifs. Donc, en aide nette touchée par an, je touchais plus qu'un SMIC. Voilà. Et donc, ça permettait de produire à bas prix pour les industries agroalimentaires et donc de pouvoir résister mieux à la concurrence internationale. Donc ces aides-là, elles ont un enjeu politique et stratégique. Donc j'ai à peu près commenté... Oui.
Mais les aides, elles
ne sont
plus dans la valeur ajoutée,
non, les aides sont à part, bien sûr. Oui. C'est un soutien indirect. C'est pour être dans la boîte verte du GATT, mais je pense qu'il y a d'autres qui vous exposeront ça. En fait, c'est des aides qui sont cachées, hein, et que les Brésiliens, les Argentins, les Américains, enfin pas les Américains parce qu'ils se font à peu près pareil, mais que beaucoup contestent. Alors maintenant, la production agricole, l'agriculture, la production, hein, c'est le statut de paysan, de producteur, 2,5% de la population active, c'est pas beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'on est capable d'être productif, donc de nourrir au moins 40 personnes. Je dirais plutôt qu'un paysan français, en général, en nourrit plutôt 80, parce que la moitié de la production est exportée. 2% de la richesse nationale et 55% de l'occupation du territoire. C'est pour retenir des chiffres rapidement. Mais cette richesse nationale, 2%, mais elle permet de faire fonctionner les industries agroalimentaires qui sont en aval. Donc, la contribution est beaucoup plus large, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est plutôt de l'ordre de 9 à 10%. La répartition du territoire métropolitain, hein, on ne parle pas de la Guyane, etc. Quelques évolutions sur ces tableaux. Vous arrivez à lire tout au bout, là? Bon, vous avez des bons yeux. Donc, en 1950, on avait 34,4 millions d'hectares qui étaient la superficie agricole cultivée. En 2010, on n'en a plus que 29 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a grignoté le terrain? L'urbanisme?
Les
jachères? Non, elles sont dans l'air, ils s'amusent les jachères. Non, les routes, hein, tout ce qui est infrastructure. Vous voyez que c'est quand même redoutable, hein, cette diminution. Alors si on regarde au sein de la superficie agricole utilisée, les terres arables n'ont pas beaucoup reculé. Par contre, les prairies ont beaucoup reculé. Hein, environ 3 millions d'hectares. Les vignes et les vergers, divisés par deux. Il y avait beaucoup plus de vignes il y a 60 ans. Et le territoire agricole non cultivé a aussi régressé. Et ce qui a évolué en parallèle, c'est la forêt. 4 millions d'hectares de plus. Alors, on dirait qu'on est... La France est beau... Elle est beaucoup plus boisée maintenant qu'elle n'était à la fin du Moyen-Âge, quand les moines avaient tout.
Mais il y a aussi un abandon des terres ou des cultures au profit des forêts.
C'est ça. C'est vrai. Ça peut être le cas. Ça peut être un paysan qui trouve plus intéressant... dans la Creuse, par exemple, bon, ben, la forêt peut rapporter plus que l'élevage bovin. Donc on a des régions de France où les propriétaires fonciers ont décidé de boiser. Économique pour cela. C'est bien comme ça, ça vous va, parce qu'on fait débat en même temps. Moi, je préfère. Ah, si, c'est comme ça que c'est... Au moins, si je raconte des conneries, il y a quelqu'un qui s'en rend compte et qui me le dit. Bon. Les territoires non agricoles, c'est ce qu'on parlait d'urbanisme et tout ça, là, ça s'est considérablement augmenté. Il y a plus de 3 millions d'hectares. Bon, le territoire métropolitain, lui, n'a pas changé. Hein, c'est toujours le même chiffre. Donc, c'est quand même une diminution qui est inquiétante. Et on arrête. Moi, j'ai fait partie du Conseil économique et social. On a fait un rapport sur le foncier. Et il faut travailler tous les élus des petites communes ou des plus grandes pour qu'ils arrêtent de grignoter la terre agricole. Il ne faut pas oublier que les villes sont souvent situées sur les meilleures terres, dans les bassins alluviaux, etc. Alors, une comparaison entre l'évolution de la population active agricole en France et celle de l'industrie et services. Vous voyez, sur une base 100 en 78, on a beaucoup diminué, c'est qu'on a diminué par 2,5. Et c'est en vert l'agriculture, l'industrie aussi a diminué. Et les services ont augmenté. Mais l'agriculture a fortement diminué. Mais à partir des années 2000, cette inflexion est moins forte. C'est-à-dire que bon, le nombre de paysans diminue, mais comme vous le verrez après, le nombre de salariés dans les exploitations augmente. Et ça compense à peu près. Mais il n'empêche qu'un agriculteur français a augmenté beaucoup sa productivité entre 80 et 2, grâce aux machines. Hein, c'est impressionnant. Alors, il y a un, corrélativement à ça, on constate qu'il y a peu d'installations d'agriculteurs. Ça, ce serait un débat à part entière. Et une des raisons, c'est que le capital par actif est devenu complètement impressionnant. Si on prend le foncier, c'est un demi-million d'euros par actif. Et dans certaines régions, c'est plus. Ça peut être, par exemple, la Picardie, c'est 1 million d'euros rien que pour le foncier, plus le capital d'exploitation, toutes les grosses machines et tout. C'est pas tout le monde qui peut mobiliser ça, et c'est une très très forte contrainte à l'installation. L'évolution du nombre de fermes, ça c'est des choses que vous savez déjà, mais je rappelle, là de 88 à 2010, les petites exploitations, c'est ce qui est là. Vous voyez, en 88, il y en avait 480 000, peut-être. Et puis, en 2010, presque divisé par 3. Les exploitations moyennes, bon, divisé par 2 et plus. Et puis, les grandes, par contre, eh ben non, leur nombre a plutôt augmenté. 147 000 à 160 000. Bon, je vous donne pas les seuils qui permettent de définir petite, c'est simplement une tendance. Donc, beaucoup de paysans sont partis à la retraite, n'ont pas été remplacés. Les fermes se sont agrandies parce que un agriculteur en place a mangé, entre guillemets, ses voisins. L'évolution de la superficie agricole occupée selon la taille économique de la ferme, eh bien, on se rend compte maintenant que les petits exploitants qui sont au nombre de, on a vu tout à l'heure, de 180 000, ben, ils n'exploitent plus grand-chose. Comparativement aux grandes fermes qui exploitent à peu près maintenant les 2/3 de la superficie agricole française. Donc on a quand même des évolutions de structure très importantes. Oui. C'est pas payant, ça fait partie de... alors peut-être pour répondre à Dominique, sauf si c'est précis là-dessus, parce qu'il faut regarder aussi pour ton débat. C'est ce qu'on va voir après. Là, vous anticipez. On a une concentration foncière, mais les grandes exploitations, là, dans les zones céréalières, en général, le paysan est fermier plutôt que propriétaire des terres. Fermier, c'est-à-dire qu'il loue la terre. Ce sont des locations. Mais la terre peut appartenir à une société foncière comprenant beaucoup de membres de la famille. Mais il y a une distinction entre la possession du foncier et l'exploitation agricole. D'ailleurs, dans les bilans, dans la majorité des cas, ça n'apparaît pas.
Mais qu'est-ce que vous appelez une grande exploitation ?
On va le voir tout à l'heure. Oui.
Vignoble,
20 hectares, c'est
énorme.
C'est exactement, c'est ce qu'on appelle la dimension économique. C'est-à-dire qu'en fonction de la valeur ajoutée dégagée, une ferme de 150 hectares de céréales sera au même niveau qu'une ferme de 15 à 20 hectares de vignes. Et dans le champagne, ce sera plutôt 10 hectares, vous voyez. Mais je ne rentre pas dans le détail. Donc là, je vais peut-être laisser les questions pour après. Hein. C'est pour montrer des évolutions. Donc, je vais résumer les évolutions. On constate une concentration des exploitations. La superficie moyenne était de 42 hectares en 88, en 2011, 78 hectares. Les fermes céréalières moyennes en 2011 font 116 hectares. Les éleveurs de viande bovine, la taille moyenne des fermes, maintenant, c'est 56 vaches. Et en vaches laitières, 44. Si vous prenez 30 ans avant, c'était 15 vaches, 15-20. On constate concentration et spécialisation des exploitations. Dans la zone où je me suis installé, dans le Saumurois, le paysan faisait un peu de tout, un peu de vignes, un peu de céréales, un peu de vaches, des pépinières, des semences. Et là, sur une commune, on peut trouver un viticulteur, un producteur plutôt spécialisé en semences, un éleveur et 2 ou 3 exploitations céréalières. Donc les gens se sont spécialisés. Et beaucoup moins de fermes maintenant combinent agriculture et élevage. Alors, à l'époque où on parle de transition agroécologique en France, les évolutions ne vont pas du tout dans le bon sens. Parce que pour faire de l'agriculture durable, de l'agroécologie, il faut avoir une forte biodiversité dans les exploitations. Et c'est de moins en moins le cas. Quand on est spécialisé, eh bien, on fait deux ou trois productions. Et si on n'a pas, par exemple, si on a beaucoup de cochons et qu'on n'a pas des voisins qui acceptent son lisier, on ne sait plus quoi faire. C'est cette concentration et cette spécialisation qui induit beaucoup d'externalités négatives au niveau des régions les plus intensives de France. Je passe maintenant. Autre évolution, les sociétés. Le modèle d'exploitation individuelle reste dominant, mais maintenant c'est moins de 6 sur 10. Et 4 sur 10 sont des sociétés. Alors dans les sociétés, on inclut les GAEC, des groupements agricoles comme moi j'étais, donc c'est un peu compliqué. Les GAEC et même les EARL, les entreprises EARL, c'est deux statuts assez particuliers en agriculture. C'est des statuts où on peut avoir des petites fermes qui ont ce statut-là. Donc, néanmoins, ce qu'on constate, c'est que le nombre de sociétés s'accroît beaucoup et que ça représente maintenant 60% du potentiel économique de l'agriculture française. Et que ces dernières années, il y a des formes plus capitalistiques, non coopératives et non familiales qui se développent. Bon, il y a la ferme des 1000 vaches, mais il y a d'autres fermes comme ça. Autre évolution, quatrième point, la main-d'œuvre. Bon, initialement, la main-d'œuvre était familiale. L'homme et la femme, comme mes parents, travaillaient sur la ferme. Et puis, vous aviez des aides familiaux, les enfants, avant de s'installer, qui contribuaient. Maintenant, les choses ont beaucoup, beaucoup changé. On trouve des femmes qui gèrent seules leur exploitation alors que le mari travaille à l'extérieur ou que le mari est retraité. Fréquent en France. Les dernières années, quand le mari a plus de 60 ans, il part à la retraite, c'est sa femme qui devient, pour la première fois de sa vie, le patron de l'exploitation. Bon, on trouve aussi le salariat, qui, comme je vous l'ai dit antérieurement, qui est plus fréquent. Donc plus de 16% d'exploitations ont des salariés permanents, et ça c'est un changement profond. En Maine-et-Loire, il y a plus de salariés dans les exploitations que de producteurs, parce qu'on a beaucoup d'activités diversifiées, des pépinières, des fleurs, des fruits, de la vigne, et donc qui demandent quand même beaucoup de travail. Et donc là, maintenant, on a plus de salariés que de paysans. Évolution récente. Maintenant, en termes de revenus. Bon, globalement, c'est positif. Le revenu agricole a augmenté, malgré la diminution des prix. C'est qu'on produit plus, quoi. On a augmenté plus la quantité de produits par personne, par actif, que la diminution des prix. Donc, globalement, ça augmente. Mais depuis qu'on a cassé la PAC, moi je suis un peu violent, mais c'est depuis 2000, qu'est-ce qui caractérise ? C'est des très très fortes fluctuations. Et là, malheureusement, je n'ai pas 2013-2014. 2013-2014, c'est revenu au niveau 100. Avec les prix, par exemple des grandes cultures, qui étaient à 200-250 euros la tonne de blé, sont repassés à 120. Il n'y a pas beaucoup de métiers dans le monde, enfin disons, qui ont cette forte fluctuation-là. Et cette forte fluctuation a des conséquences énormes sur les revenus. Et c'est aussi très variable selon les productions. Alors j'ai une diapo. Non, d'abord, les productions. Parlons des différentes productions. En France, on a environ 70 000 fermes qui sont spécialisées en grande culture. La grande culture, c'est le blé, colza, tournesol, maïs. Ensuite, la deuxième, 48 000 qui sont spécialisées en lait. Il y a aussi des gens qui ont du lait, des petites, tout petits élevages, mais ceux-là, c'est ceux qui sont spécialisés. Et à peu près le même nombre de viticulteurs. Ils n'occupent pas beaucoup d'espace, les viticulteurs, mais c'est quand même le troisième... la troisième spécialisation en France, et on va voir à l'exportation, c'est la première. Polyculture-élevage, c'est ceux qui combinent ça et ça, 39 000. Bovin-viande, 33 000. Porcin-volaille, là on va surtout Bretagne, Pays de Loire, 24 000. Des ovins, 20 000, mais ils ne vivent pas bien ceux-là. du maraîchage d'horticulture, 11 000, et puis des bovins mixtes, il y a des choses compliquées, 9 000, et des fruits. Forte régression, les fruits. Les fruits, on n'arrive plus à être compétitifs. Puis il n'y a pas d'aide-pack pour les fruits, ou presque pas, sauf pour arracher. Alors, ce graphique-là est intéressant. C'est la part des aide-pack dans le revenu selon la production dominante. Là, il faut se concentrer un petit peu parce que, d'abord, c'est 2012, j'aurais pris 2011 ou 2013, ça aurait été très différent. En bovin-viande, la part des aides dans le revenu, elle était en 2012 de 159%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas les aides, ben il est déficitaire. Il peut mettre la clé sous la porte, il ne vivra pas. Pareil en ovin et caprin. Bovin-lait, 84%. Là, ça commence à être un peu positif, mais il y a eu aussi des crises. Tout dépend des évolutions du prix du lait. Il y a eu des grèves et des mouvements très durs ces dernières années. L'ensemble, c'est 60%, c'est-à-dire que les aides constituent 60% du revenu. Alors ces aides, j'ai mis en bleu, ça correspond par exploitation moyenne en Pays de Loire, par exemple, c'est de l'ordre de 25 000 euros par ferme. Et ça correspond environ à 200 euros par habitant en France. C'est une subvention à l'agriculture. Ça, c'est un sujet de débat. Comme les citoyens payent pour l'agriculture, ils pourraient aussi revendiquer pour l'orienter. Ces aides, alors donc je vais continuer quand même. Grande culture, 50%. Et ça, c'était en 2012 parce que le prix des céréales était élevé. En 2014, le prix des céréales a baissé et les aides sont. Le revenu sans aide serait proche de 2-0. Après, on a. Des productions, là. L'arbo, c'est pour les plantations, arrachage et tout, c'est réduit le niveau d'aide. Maraîchage, presque rien. Viticulture, c'est-à-dire le secteur qui dégage le plus de valeur ajoutée, le plus d'exportation, c'est celui qui a le moins d'aide. Oui, non, mais c'est. Et pourtant, il est soumis à une concurrence internationale terrible. Alors, le problème de ces aides, c'est que ça induit des bagarres terribles dans les campagnes. Tu es viticulteur, tu ne touches pas d'aide, tu vois le céréalier à côté qui double ses surfaces, c'est à peu près 300 euros dans les zones céréalières des Pays de Loire, c'est 350 ou 400 euros par hectare en Picardie. Si on a 100 hectares, ça fait 40 000 euros, on en a 200, ça fait 80 000 euros. Avec ça, on peut se payer une grande machine. Avec la grande machine, on peut aller cultiver la ferme du voisin quand il vieillit, quand il arrête. Ça induit beaucoup, beaucoup d'injustices. Surtout que c'est basé sur des références historiques. Alors c'est basé sur les superficies et les prix en 2000, 2001, 2002, 2003. Et chaque ferme avait, à ce moment-là, on a toujours cette référence-là, 12 ans après. Et en fait, c'est basé sur le capital, le nombre d'hectares et le nombre de têtes de bovins. Et c'est pas basé sur le nombre d'actifs des fermes. Au moins, on a plus de 10% de chômage en France. On donne des aides à l'agriculture sur le capital et non pas sur le travail. Alors ça, c'est une revendication très forte de la Confédération paysanne. C'est pas facile à obtenir parce que la FNSEA, en face, elle a surtout le capital, donc elle veut préserver ses avantages acquis. Et en plus, ça n'est pas basé sur le prix agricole de l'année. C'est-à-dire, en 2008, les prix agricoles étaient à très 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 élevé, donc un céréalier pouvait parfaitement vivre sans les aides. De même, en 2013, et les aides sont tombées quand même. Donc là, il y a plusieurs injustices, mais bon, c'est des sujets qui sont compliqués, mais politiquement, il faudrait que les citoyens se mettent un peu plus à regarder ça. Alors, je vais résumer. Je regarde, ouais, ça va. Je résume. Les autres évolutions positives, on a une augmentation de la production agricole, depuis 1960 multipliée par 2, une augmentation de la productivité du travail multipliée par 4. C'est le secteur de l'économie où l'augmentation de la productivité du travail a été le plus spectaculaire. Croissance modérée des prix à la consommation. Et puis, on a aussi, moi je considère ça positif, des attentes de la part des consommateurs suite à quelques crises alimentaires. Ils s'interrogent davantage sur l'aspect qualitatif de l'alimentation. Dernier point, on a un développement de formes de production plus durables, plus respectueuses de l'environnement. Le bio, des fermes d'agriculture durable, moi je faisais partie du réseau agriculture durable. Et puis en extérieur, on a un divorce entre les prix payés aux paysans et les prix payés à la consommation. La farine dans le prix de la baguette, alors là, c'est le grand écart. On a une volatilité croissante de ces prix parce qu'on n'a plus de régulation. On a une réduction trop accélérée du nombre d'actifs agricoles dans certaines régions, ce qui ne permet plus l'entretien des territoires. On a aussi les consommations intermédiaires qui fluctuent, hein, selon le prix du pétrole, ça varie, le prix des engrais varie du simple au double. Et puis on a le développement des externalités négatives, des pollutions des eaux, etc., dont j'ai déjà parlé, et la réduction de la biodiversité. Et enfin, un dernier point, et cela est une sacrée menace, on a des aléas climatiques plus fréquents. Enfin, c'est ce que les paysans disent dans ces témoignages d'acteurs, mais c'est quand même important. Bon, les prix agricoles, Mazoya a dû en parler, mais nous, ce qu'on retient, c'est la fluctuation. On n'a pas de visibilité parce qu'on ne sait pas du tout, le jeune qui a repris notre exploitation, il ne sait pas du tout à quel prix il vendra son produit l'année d'après et encore l'année d'après. Alors, en lien avec l'année 2014, qui était l'année de l'agriculture familiale, est-ce que nos agricultures françaises peuvent être qualifiées de familiales? Oui, en ce qui concerne la détention des capitaux. C'est toujours des familles paysannes qui possèdent la majorité du capital d'exploitation foncier et matériel agricole. Mais il y a des industriels qui commencent à se mettre là-dedans en pensant que les prix, que l'agriculture, vu la raréfaction des denrées au niveau de la planète, ça peut être un bon placement. Et donc on a la ferme comme celle des 1000 vaches, mais il y en a une vingtaine comme ça en France actuellement. Alors c'est moins familial que par le passé en ce qui concerne le travail, oui, mais bon, il y a eu quelques débats, donc je vais pouvoir passer. On a une augmentation dans les fermes de la part du travail, je résume ce que j'ai dit, fait par les salariés. On a une augmentation du pourcentage de conjoints travaillant à l'extérieur. Actuellement, 60% des femmes d'agriculteurs travaillent à l'extérieur. Donc, quand on dit familial, ben non, le couple ne travaille plus majoritairement, ne travaille plus ensemble sur la ferme. On a des formes sociétaires qui ne sont pas basées sur des liens familiaux. Même le GAEC, c'était pas un membre de la famille, mon associé, c'était un ami. Et puis les transmissions se font souvent, c'est-à-dire que le jeune qui reprend une ferme, bien de plus en plus maintenant, il ne devient pas du milieu agricole. Alors avec une petite particularité, c'est que dans les petites fermes françaises, c'est reste plus familial que dans les grandes. C'est ce petit camembert. Là, dans les petites fermes, on a 74% du travail qui est familial. Et si on ajoute les conjoints, ça fait quand même 86. Dans les plus grandes fermes, c'est plutôt 60. Bon, donc il y a une forte différenciation de nos agricultures. Je continue sur les IA, mais je vais aller vite sur les IA, parce que j'ai pas beaucoup de diapos. Bon, elles transforment 70% de la production finale de l'agriculture. Elles seraient au premier rang des industries nationales. Ça, c'est... Et en Pays de Loire, alors, c'est 26% de l'emploi. Chiffre d'affaires, c'est environ 17-19%. Valeur ajoutée, 14 à 21, c'est selon les années. Emploi, 13 à 20% des salariés. Mais certaines régions, Bretagne, Pays de Loire, ont une orientation plus industrie agroalimentaire. Hop. Alors par rapport à la concurrence internationale, si on part en 2004, la France était, c'est ici, cette couleur-là. Alors on était premier, puis après, on est plutôt quatrième, derrière Pays-Bas, Allemagne et États-Unis, mais ça joue quand même dans un mouchoir de poche. Ça dépend des années. Donc nos industries agroalimentaires sont parmi les plus puissantes du monde. Le Brésil est largement en dessous. Ce qui fait la force de l'agriculture française, ce n'est pas la production de blé. c'est la production d'AOC, les labels de qualité, qui sont reconnus dans le monde, aussi bien les vins et les spiritueux que les fromages, et d'autres produits agricoles transformés avec une très bonne image. Cependant, on est en train de perdre de la compétitivité, parce que l'Europe sociale n'a pas été faite. Par exemple, nos abattoirs coûtent plus cher à faire fonctionner que les abattoirs allemands. Parce qu'en Allemagne, ben c'est bien simple, ils n'ont pas de SMIG, ils font venir des travailleurs de Roumanie, etc. Oui, mais ils ne l'ont pas mis en place. Ce n'est pas pour cette année encore. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des abattoirs bretons qui ferment. Conséquence directe. En matière de normes phytosanitaires, le pays le plus laxiste, il est au sud, là. C'est l'Espagne. Et ça nous crée beaucoup de problèmes. On peut aussi dire qu'en France, parfois, l'accès au financement est plus difficile, etc. Donc il y a quand même quelques inquiétudes sur l'évolution des industries agroalimentaires. Et il faudrait harmoniser l'Europe. Vis-à-vis des pays tiers, il y a des difficultés par rapport à des grands pays comme le Brésil et l'Argentine et autres qui prennent des parts de marché plus importantes. Mais ces pays font souvent du dumping environnemental ou du dumping social. À creuser, hein, ça c'est... Alors, on a dans l'industrie agroalimentaire une dominance de petites entreprises. Donc, elles représentent 87% des entreprises ont moins de 50 salariés, 10% entre 50 et 250 salariés, et puis il y en a 3% qui sont des mastodontes. Alors, parmi ces grands mastodontes, Danone, Lactalis, Pernod Ricard, Groupe Bijard, c'est la viande, Sodial... Je vais creuser Sodial après. Perena, c'est la coopérative avec laquelle j'ai essayé de travailler, pas facile. Bongrain. Bongrain et Sodial sont très reliés financièrement. Puis après, y en a trois autres, c'est parmi les 10 premières. Beaucoup de coopératives dans le secteur agricole français. Beaucoup. C'est 12% du nombre total des IA, mais en puissance économique, c'est plus que ça. Donc il y a les noms des plus grandes. Et on a trois groupes coopératifs dans le top 10 des industries agroalimentaires françaises. Mais est-ce qu'on peut encore parler de coopératives? Ce sera le point. Je n'ai pas un copain producteur de lait, hein, ce n'est pas pour rien qu'ils ont manifesté. Et parfois, ils se sentent mieux avec des industriels privés qu'avec des industriels coopératifs. En fait, les coopératives sont divisées. Il y a la production, la collecte du lait, par exemple. Ça, c'est coopératif. Mais après, on vend. La coopérative qui collecte le lait vend à un organisme qui transforme le lait, qui fait des fromages, etc. Là, c'est industriel privé. Et c'est simple. Hein. Il suffit de vendre le prix du lait à bas prix à celui qui transforme. Et ça fait penser à certaines grandes industries qui délocalisent pour ne pas payer d'impôts. Au Luxembourg ou ailleurs, et en fait, les bénéfices sont faits par la transformation et la commercialisation, et non pas au niveau de la production. Donc on a des assemblées de producteurs, ce sont des assemblées de délégués, mais on est où les paysans se sentent comme des pions, sans aucun pouvoir. Donc on a externalisation des activités de transformation et de commercialisation, avec des filiales ayant un statut de société anonyme. Ce qui fait que le prix du lait est souvent inférieur dans les coopératives, les grandes coopératives, que dans les organismes privés. Et puis, il y a très peu de distribution de ristournes, parce que les bénéfices sont cachés. Et les producteurs sont néanmoins en situation de dépendance. C'est-à-dire que quand tu signes pour adhérer à une coopérative, tu es obligé de livrer toute ta production à la coopérative. Donc on te prend comme ça, mais on te redonne peu de choses. Ce qui fait qu'il y a un syndicat agricole qui est né suite à la crise alimentaire 2008-2009 et à la crise au niveau du lait, il s'appelle l'APLI, avec parfois des relents poujadis, mais beaucoup d'explications sur le fond. Quoi. Alors, quand on analyse, c'est là que cette diapo, c'est la plus mauvaise que j'ai. Hein. Les producteurs, la coopérative est tout en haut. Sodial Union, c'est une société anonyme. Sodial GmbH, et puis après relié à Bongrain, société anonyme. Sodial International, société anonyme. Et puis, là-dedans, vous avez Yoplait. Théoriquement, ça fait partie de la coopérative Sodial, la plus grande coopérative française. Mais Yoplait est détenu à 51% par des capitaux américains, General Mills. C'est interdit dans le statut coopératif. On ne devrait pas avoir une filiale qui appartienne à un groupe privé. Et on appelle ça coopératif. Vaste débat, on ne pose pas de questions là-dessus, parce que sinon je ne vais jamais tenir l'heure. Bon, autre point, ces industries agroalimentaires, elles sont puissantes, mais néanmoins, il y a encore plus puissant qu'eux en aval. C'est les grandes centrales d'achat. Sachant que les ménages achètent 67% de leurs produits alimentaires auprès de la grande distribution. Et en France, il y a 6 centrales d'achat. Très puissantes. Or, ça induit des tensions entre les centrales d'achat et l'industrie agroalimentaire, entre les centrales d'achat et les syndicats agricoles. La FNSEA adore rentrer dans les supermarchés et faire des opérations coup de poing. Elle n'a pas tort sur ce plan. Et puis les pouvoirs publics, bah, souvent, ils bottent en touche. Hein. Ils ont souvent aidé à des supermarchés de s'installer. Genre, une petite ville de 7500 habitants, les 4 supermarchés d'eau et la fontaine. Bon, ça, vous devez savoir, hein, Carrefour est le plus puissant, Leclerc après, etc. Et Système U qui est le 9%, mais qui essaye parfois, qui innove, et avec lequel les paysans ont l'impression de pouvoir dialoguer davantage. Face à ça, et ce sera ma dernière diapo pour ces deux premiers chapitres, les paysans se rendent compte qu'ils n'ont pas de maîtrise de leur commercial, de leur transformation, de leur commercialisation, et donc de leur revenu et de leur valeur ajoutée dégagée via ces grandes filières agroalimentaires. Et un pourcentage de plus en plus élevé de paysans cherche à se sauver et à aller vers les circuits courts. Un agriculteur sur 3 en Rhône-Alpes et en PACA, je parle des anciennes régions, et 1 sur 6 en Pays de Loire commercialise tout ou partie de sa production en circuit court. C'est pas marginal. Et c'est en train, il n'y a pas que les AMAP, il y a les marchés de plein vent, il y a plein de formes de production, il y a la vente à la ferme, etc. Les avantages, autonomie retrouvée ou renforcée pour les agriculteurs. Là, ils participent à la détermination du prix. Alors qu'autrement, ce n'est pas eux qui déterminent les prix. En général, le fait d'être en lien avec les consommateurs entraîne des pratiques agricoles plus vertueuses. Bon, 90% des maraîchers en circuit court sont en bio, ce qui est positif pour la qualité des eaux et pour la biodiversité. Et ces dialogues, c'est en fait la viticulture. Je prends la viticulture du Saumurois, mais également de Bourgueil, toutes ces zones des Pays de Loire. C'est eux qui ont innové, qui ont été les premiers. Dans les années 60-70, ils commercialisaient déjà une bonne partie de leur vin en circuit court. Et le fait d'être à la cave et de dialoguer avec le consommateur qui faisait des remarques sur la qualité des vins, ça les a incités à beaucoup améliorer cette qualité. Et maintenant, ils ont de l'avance. Et c'est plutôt des secteurs, la viticulture du Saumurois marche plutôt très bien. Parce qu'ils ont pris en compte les demandes de qualité gustative et sanitaire. Pour le sanitaire, c'est pesticides. Hein. Autre avantage, réduction du gaspillage alimentaire, parce qu'on adapte plus la production à la consommation. Réduction des emballages, dans tout ce qui est circuit court, on a beaucoup. En général, on a moins d'emballages. Je ne dis pas réduction effet de serre, parce que parfois, on a des coûts de transport qui ne sont pas très cohérents. Et puis, il y a des liens entre, aussi, ça incite à développer les agricultures périurbaines. Enfin, on est sur un autre sujet. Qui seront essentielles pour la relocalisation de l'alimentation dans le futur. Alors, je sais bien qu'à Paris, c'est sûrement la ville la plus difficile, mais vous prenez Loire-Atlantique, il y a 200 AMAP, dont 150 à Nantes. Mais il n'y a pas que les AMAP, il y a des marchés de plein vent, etc. Il y a beaucoup de magasins de producteurs. Région de Lyon, il y a 53 magasins de producteurs, tout autour de Lyon. Et donc, ça induit des mouvements qui permettent de s'affranchir des grandes surfaces et des IA. Mais c'est de nouveaux savoirs pour les paysans, pour qu'ils apprennent à bien transformer, puis il faut qu'ils deviennent des commerçants. Ce n'est pas tous qui aiment le faire. J'arrête là. C'était facile, je sais, mais on a parlé un petit peu en route, c'est pas trop mal. Hein ? Bon, maintenant vous avez la parole, c'est eux qui régulent.
Non, c'est lui qui
régule. Ah, ben
d'accord,
c'est moi.
La
condition qu'on se demande la parole.
Bon, je crois qu'ils sont
oui.
Tranquilles sur ce plan. Allez-y.